Une indexation à 5,8 ne dégrèvera jamais nos stock options.
On va juguler les réajustements périodiques du cash flow.
Attendez, j'y comprends plus rien là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la tête.
Faut être un petit peu plus clair.
Les OPA de la BE ne stoppent pas les PCI 016 TTC proposés par le CNDA à la SPJC. Je dis foncez, il n'y a aucun risque.
Bienvenue dans Splash, le podcast qui jette un pavé dans la mare de l'économie. Aujourd'hui, on va parler d'un problème social qui donne lieu à quantité de promesses électorales, mais à bien peu de succès. La condition des sans-abri.
Je veux, si je suis élu président de la République, que d'ici à 2 ans, plus personne ne soit obligé de dormir sur le trottoir.
Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues.
S'il n'y a pas de politique publique pour des situations d'urgence ou des situations de difficulté sociale, ou des problèmes qui sont ceux de personnes qui vont être durablement dans le dénuement ou la pauvreté, il ne peut pas y avoir de réponse simplement par le bénévolat ou par l'engagement.
C'est une question de dignité, c'est une question d'humanité et d'efficacité là aussi.
Quand quelqu'un n'a pas un toit lorsqu'il fait froid et qu'il est obligé de dormir dehors, c'est tout l'équilibre de la société où vous voulez que vos enfants vivent en paix qui s'en trouvera remis en cause.
Les sans-abri, ce sont les personnes qui n'ont pas de logement et qui se retrouvent à passer la nuit dans un lieu non prévu pour l'habitation, un hall de gare, un parking ou un trottoir. Difficile d'estimer leur nombre exact. La mairie de Paris a essayé de le faire avec une équipe de bénévoles qui a sillonné la capitale en février 2018 et a recensé 3000 personnes dans la ville de Paris. Il faut y ajouter toutes les personnes qui sont prises en charge dans des hébergements d'urgence, de réinsertion sociale, dans des structures pour les demandeurs d'asile en attente ou encore dans des logements temporaires comme des foyers. Si on a du mal à évaluer le nombre des SDF, c'est aussi parce qu'on ne parle pas ici d'une population homogène et déterminée, mais d'une condition sociale dans laquelle on peut entrer et dont on peut sortir. C'est ce que m'a expliqué Brendan O'Flaherty, professeur d'économie à l'Université Columbia et l'un des meilleurs spécialistes américains de ce sujet.
Parce que devenir sans-abri, ce n'est pas rejoindre un groupe de personnes, c'est un processus. Et c'est un processus avec beaucoup de phénomènes aléatoires et surprenants.
Pour cette raison, il est difficile de prendre en charge toute une diversité de personnes qui rencontrent chacune des problèmes spécifiques.
On ne peut pas savoir si quelqu'un deviendra sans-abri à l'avance, ce n'est pas marqué sur lui. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. On peut seulement établir statistiquement, après les faits, qu'il y a un nombre X de personnes qui sont devenues sans-abri. Donc, dans les programmes de prévention du sans-abrisme, personne n'a aucune idée de leur efficacité au moment où ils se déroulent. C'est seulement ensuite que l'on peut voir s'ils ont été efficaces.
On va donc se pencher sur les expériences qui permettent effectivement de sortir de la rue les sans-abri qui sont pris en charge. À partir de ces expériences, peut-on trouver des solutions durables pour les sans-abri ?
Comment on peut sortir les personnes sans-abri de la rue ?
Revenons à la France.
Française, Français, vive la République, vive la France.
Il y a théoriquement une multiplicité de structures qui peuvent prendre en charge les SDF. Pascal Estecahandi, qui travaille à la DIHAL, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement, les détaille.
L'offre habituelle, c'est tout ce qui existe dans le système classique pour accompagner les personnes à la rue. Donc, vous avez les maraudes, qui on parle de la base, hein, toutes les maraudes qui vont au contact des personnes qui sont à la rue, les accueils de jour, les hébergements d'urgence, le système hôtelier divers et varié. Ensuite, vous avez le CHRS, vous avez des maisons relais, vous avez tout ce qui est dans le domaine sanitaire, des lits halte soins de santé, des appartements de coordination thérapeutique. Voilà. Et puis après, tout le paquet de logements accompagnés, maisons relais, etc., résidences sociales. Et puis après, les gens peuvent accéder aussi au logement. Voilà. Avec des systèmes d'accompagnement divers et variés.
Les sans-abri, ce sont les personnes qui n'ont aucun logement et qui trouvent une solution comme ils ou elles le peuvent dans la rue, par exemple. Et si l'on veut recenser l'ensemble des SDF, les sans domicile fixe, on peut encore y ajouter toutes celles et tous ceux qui n'ont pas de logement fixe au sens large. Au total, environ 140 000 personnes en France en 2012, d'après l'INSEE. Ce chiffre a beaucoup augmenté depuis 2001. Il était alors de 90 000 personnes. Être sans domicile fixe, c'est souvent faire des allers-retours entre ces différentes situations. La rue, un hébergement temporaire ou un hébergement d'urgence. Mais aussi la prison, en particulier pour les usagers de stupéfiants et pour les étrangers en situation irrégulière. Et enfin, l'hôpital psychiatrique. Entre un quart et un tiers des SDF souffrent d'une affection mentale sévère. Les troubles psychotiques sont 8 à 10 fois plus répandus chez les SDF que dans la population générale. Donc, parmi les sans-abri, on trouve beaucoup de personnes qui ont une santé mentale dégradée et qui ont besoin de soins. La réponse traditionnelle à la situation des sans-abri les plus fragiles a longtemps consisté à soigner avant de loger. L'idée, c'est que l'on ne pouvait pas offrir un logement à des personnes qui allaient s'avérer incapables de payer leur loyer ou d'avoir des relations cordiales avec leurs voisins. Il fallait d'abord qu'elles se soignent. Mais c'est une approche assez paternaliste du problème. Et on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas, tout simplement. Plus ces personnes sont à la rue, même en étant médicalement suivies ou accompagnées, plus leurs problèmes de santé mentale sont insurmontables. Non seulement c'est tragique pour les personnes concernées, mais en plus d'être inefficace, ça coûte très cher. Autour de 30 000 euros par an et par personne.
Donc voilà, vous avez, ça c'est le coût à l'entrée. Donc ça coûte très cher pour une qualité de vie nulle, des gens qui vont mourir 30 à 35 ans plus tôt que la population générale, dans des conditions très déplorables, qui ont des durées de à la rue de 8 ans en moyenne. Enfin, c'est, voilà. Donc, investir 35 000 euros pour ça, enfin, pour la puissance publique, ça n'a aucun intérêt, si vous voulez, en termes de services rendus, quoi.
30 000 euros par personne et par an, c'est le genre de somme que l'on dépense pour traiter un cancer. Mais on y parvient dans bien des cas. À l'inverse, les sans-abri restent à la rue, ou plutôt y retournent fréquemment, même après en être sortis.
On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres.
Et on n'arrive à résoudre ni les problèmes de santé mentale, ni le sans-abrisme. Les spécialistes de cette question alertent fréquemment sur le trop grand nombre de dispositifs, de programmes, de structures locales ou plus rarement nationales, chacun ayant en charge une petite partie du problème. Et cette dilution des responsabilités n'arrange pas la situation. Impossible de faire le point sur ce qui fonctionne ou pas. Tenter de résoudre les problèmes de santé avant de loger les personnes, ça a un nom, le treatment first. Et depuis les années 90, on sait que ça ne marche pas.
Ça me sert à rien.
Ces mauvais résultats, ça a donné l'idée à l'équipe du docteur Sam Tseberis, un psychiatre de New York, de prendre les choses à l'envers. Le logement d'abord. Pour permettre de reprendre pied, de ne plus être en insécurité, d'avoir une vie plus stable, de recevoir du courrier, et même de retrouver un emploi plus facilement à terme. Le programme qui a été mis en œuvre à New York dans les années 90 s'appelle Housing First. Et il a ensuite été étendu à d'autres villes, puis d'autres pays. En France, c'est le docteur Pascal Estecalandi qui a importé ce dispositif. Elle a constitué des équipes pluridisciplinaires. Des scientifiques, des professionnels de l'aide sociale, des médecins, des psychologues, des infirmiers et d'anciens sans-abri qui ont connu la rue et les problèmes de santé mentale. Ces équipes offrent à des volontaires la possibilité d'être prises en charge par un dispositif qui s'appelle « Un chez soi d'abord ». Il a démarré en 2011 dans 4 villes, Marseille, Toulouse, Lille et Paris.
Donc qu'est-ce que c'est ? C'est loger directement depuis la rue et accompagner avec une méthodologie particulière, intensive et pluridisciplinaire, des personnes qui ont plusieurs caractéristiques. La première, c'est qu'elles ont toutes eu un diagnostic de santé mentale, de problématique de santé mentale sévère. En général, c'est dans un diagnostic qui relève du champ de la psychose. Elles ont toutes été à la rue, alors plus ou moins longtemps. Au moment où elles rentrent, en général, elles sont soit encore à la rue, soit hébergées chez des tiers, soit en hébergement d'urgence. Donc, des gens qui sont très loin de l'insertion, on va dire, et en tout cas du logement. Il faut qu'elles soient adultes, on prend des personnes adultes, et qu'elles aient ce qu'on appelle des besoins élevés.
Une fois que les personnes volontaires entrent dans le dispositif, elles ont deux obligations.
À partir de là, une fois qu'elles sont rentrées dans ce dispositif avec ses clés d'entrée, on va dire, il n'y a aucune obligation de soins pour elles. Il y a juste deux obligations. À partir du moment où elles ont des ressources, on ouvre les droits et où elles ont des ressources, elles ont pour obligation de payer le reste à charge du loyer, une fois qu'on a enlevé l'allocation logement. Et puis, la deuxième obligation, c'est de recevoir l'équipe chez elles au moins une fois par semaine ou dans un lieu qu'elles ont choisi dans la cité.
Il ne s'agit pas d'hébergement temporaire. Les logements sont de petits appartements disséminés dans la ville, dans le parc locatif privé ou dans des logements sociaux. Donc, on aide les sans-abri à retrouver un logement avec une caution versée par l'État. Ça rassure les bailleurs. Et les personnes concernées reçoivent des aides au logement, mais elles doivent payer une partie de leur loyer, si elles touchent le RSA ou si elles ont un salaire, par exemple. Tout ça, ça coûte cher, en particulier parce qu'il faut rémunérer des professionnels pour rendre visite et accompagner fréquemment les locataires. Il faudrait donc que l'on puisse évaluer les coûts et les bénéfices engendrés par un chez soi d'abord. Et ça tombe bien, cette évaluation a été faite. Comme dans le cas américain et au Québec, le programme Un chez soi d'abord a donné lieu à un essai clinique randomisé pour en mesurer les résultats. En deux mots, c'est le genre de méthode qu'on utilise beaucoup en économie du développement. On en a parlé dans un autre épisode de Splash. On prend un échantillon de personnes, ici des personnes sans abri, et on tire au hasard deux groupes de taille égale. L'un des deux groupes est pris en charge par les dispositifs habituels, et l'autre groupe accède à un chez soi d'abord. C'est au départ la même population, avec des caractéristiques semblables. Donc, si l'on observe des résultats différents entre les deux groupes, c'est seulement l'effet de l'entrée dans le dispositif, ou non. Commençons par les coûts. Vous vous souvenez qu'un sans-abri qui a de graves problèmes de santé mentale coûte environ 30 000 euros à la collectivité par an. Eh bien, dans le programme Un chez soi d'abord, ces coûts sont réduits de moitié.
Ça, c'est le coût sur notre cohorte, donc, qui était une cohorte assez particulière quand même. Et au bout de 24 mois, dans l'offre habituelle, on est à peu près sur les mêmes coûts. Et dans le chez soi, on a quasiment diminué de moitié. Et comme le coût du programme coûte 14 000 euros, quand on ajoute les deux, si vous voulez. Alors après, on a aussi tenu compte de l'APL. Enfin, bon, j'ai la liste de tous les coûts et on a pris des coûts moyens en plus, si vous voulez, parce que c'est pareil, en termes d'hospitalisation, vous avez, on était vraiment au coût moyen. Voilà, on n'était pas ni en haut. Enfin. Et donc, on a montré ça, si vous voulez, que sur le plan médico-éco, on était co-efficace.
Ce qu'explique Pascal Estecarandi, c'est que les locataires de Un chez soi d'abord sont moins pris en charge par les hôpitaux, les tribunaux et les structures d'accueil temporaire. Et ça occasionne moins de dépenses publiques. Gardez aussi en tête qu'ils payent une partie de leur loyer. Ils touchent le RSA par exemple et parfois même ils ont un emploi qui leur permet de gagner un revenu d'activité. Comprenez ici que l'argent dépensé dans le programme est au total plus faible que les économies qu'il permet. Mais il faut aussi tenir compte des bénéfices. Et ils sont très parlants. Au bout de 6 mois, les personnes qui ont bénéficié de ce programme sont encore dans un logement pour les 3/4 d'entre elles, contre 10% pour celles qui n'y ont pas accès. Et ce résultat se vérifie encore 6 mois plus tard, puis 12 mois plus tard. Ça confirme une étude faite par Keresh et Johnson, deux économistes qui ont compilé en 2017 des données sur les programmes Housing First dans différents pays. Au bout de 2 ans, les groupes pris en charge par ces programmes gardent un logement 2 à 3 fois plus souvent que ceux qui n'y ont pas accès. Et un logement, c'est le premier pas vers une meilleure insertion. Ok, on prend donc en charge beaucoup mieux des gens qui en ont absolument besoin. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de les installer dans une situation dont ils auront du mal à sortir? Est-ce qu'on observe effectivement des réinsertions, un retour à l'emploi, des locataires qui gagnent un revenu régulier de manière autonome? Ont-ils moins besoin d'être accompagnés?
Après, il n'y a aucune durée a priori d'accompagnement. Donc certes, il va y avoir des gens qui vont être accompagnés très longtemps parce que leurs difficultés sont majeures, c'est très compliqué pour elles, ou alors elles ont elles sont trop instables sur le plan de la maladie. Enfin voilà. Mais on peut avoir des gens qui rapidement finalement n'ont plus besoin d'équipe ou trouvent ailleurs. Voilà. Donc nous, notre objectif, c'est d'avoir un turnover autour de 15% à partir du moment où on est à plein régime. C'est pas si simple que ça, hein.
Un turnover de 15%, ça signifierait que 15% des locataires entrent dans ce programme et en sortent. Pour l'instant, dans le cas français, on a encore peu de recul. L'expérimentation a été mise en place en 2011, puis étendue à d'autres villes en 2016, et elle est encore en cours de déploiement aujourd'hui. Au total, ce sont environ 1200 personnes qui sont touchées. Et l'objectif est d'atteindre 2800 locataires sur environ 140 000 SDF. Et dans le détail, l'accompagnement des locataires repose sur du cas par cas. Difficile de voir les effets à terme, même dans l'article de Keresh et Johnson que je citais plus haut. Brenda Noflaherty confirme que le programme Housing First fonctionne bien pour ses bénéficiaires, mais qu'on n'en sait pas plus.
Whether a person who is homeless now becomes not homeless in the future.
Si on s'intéresse au cas d'une personne sans abri maintenant et au fait qu'elle ne reste pas sans domicile, alors Housing First a de très bons résultats. Au sens où si vous avez une amie sans abri, l'une des meilleures choses qui puisse lui venir en aide est d'être prise en charge par un programme Housing First. Mais si vous voulez parler d'une réduction du nombre de personnes qui sont sans abri à une date donnée, alors on ne sait pas si Housing First permet cela ou pas.
Si l'on ne peut pas conclure sur ce point, c'est notamment parce que le nombre de personnes prises en charge par ce dispositif est encore faible. Est-ce que ce programme pourrait être étendu à d'autres populations?
Le principe aussi, quand Bachelot a dit d'accord, c'était de dire si ça marche pour les plus graves, ça marchera pour les autres. Et donc, dans le même temps, on a travaillé sur le logement d'abord. Donc, il y a le plan logement d'abord qui est en cours et là, tout récemment, le service public de la rue au logement. Donc, en gros, le plan logement d'abord, c'est de dire quoi ? C'est il faut, si on est sur population générale de gens qui relèvent de la, du service de l'accueil, hébergement, insertion, c'est-à-dire des sans-domicile au sens large, et pas simplement le focus de, voilà, il faut une politique sur plusieurs axes.
L'État n'offrira pas les mêmes solutions aux camps de migrants qui rassemblent des centaines de personnes, cherchant pour certaines à quitter la France, et à des jeunes déscolarisés qui se retrouvent à la rue faute de revenus réguliers. Les sans-abri, et plus généralement les SDF, c'est une population très composite qui a pour seul point commun de ne pas avoir de logement digne de ce nom. On peut commencer par construire plus de logements et occuper les logements vides. C'est l'une des réponses. Ne serait-ce que parce que ça fait baisser les loyers. Et comme le dirait Brenda Onofre-Horty,
des loyers plus bas, ça réduit le nombre de sans-abri. Des loyers moyens plus bas, ça joue un rôle. Une économie plus dynamique, ça réduit le nombre de sans-abri. Ça, ce sont les choses sur lesquelles on a le plus de données.
On peut aussi agir avec les collectivités locales pour leur montrer comment développer des solutions spécifiques pour les sans-abri qui ont une santé mentale dégradée et pour d'autres sans-abri aux profils différents. Il y a aussi d'autres programmes très récents consistant à distribuer de l'argent liquide aux sans-abri et à les laisser choisir ce qu'ils en font. Et à votre avis, est-ce qu'ils vont acheter de la drogue ou de l'alcool avec ? Pas du tout.
Oh ben ça c'est une surprise ! Oh c'est incroyable ! Je crois bien que je vais crever d'une crise cardiaque tellement c'est surprenant !
Depuis
peu, un groupe de recherche à Vancouver a conduit une expérimentation dans laquelle ils ont donné de l'argent à des sans-abri. C'était un essai contrôlé, randomisé. Ils ont donc sélectionné au hasard certaines personnes à qui ils ont donné de l'argent et d'autres non. Ils les ont suivis pendant un an environ, et les résultats sont bons. On a vu une réduction significative du nombre de sans-abri et pas d'augmentation significative de l'usage de drogue ni de l'alcoolisme.
Cette expérience date de 2018 et elle est testée aujourd'hui à une plus large échelle. Elle rejoint les conclusions d'autres expérimentations menées par les équipes du laboratoire d'Esther Duflo et Abhijit Banerjee par exemple. Le meilleur moyen d'aider les pauvres à sortir de la pauvreté, c'est de leur donner de l'argent sans contrepartie. Et en les laissant choisir la manière dont ils et elles l'utilisent. Ce qu'il y a de très encourageant dans ce genre de programme, comme dans Un chez soi d'abord, c'est qu'il s'agit de dispositifs qui ont d'ores et déjà porté leurs fruits. Pour cette raison, et parce qu'ils ont donné lieu à une évaluation très serrée, c'est très convaincant. À la fois pour les bailleurs sociaux, pour le grand public, et même pour des responsables politiques. Or, ce sont eux qu'il faut convaincre de délier les cordons de la bourse, alors que les SDF ne votent pas et sont très mal représentés politiquement.
Devant tant d'horreur, les cités d'urgence, ce n'est même plus assez urgent.
Faire connaître ce type d'expérimentation et suivre leurs résultats, c'est une bonne manière de contribuer à changer le discours sur les sans-abri, souvent très défaitiste. Même pour celles et ceux d'entre eux qui sont les plus fragiles, il y a des solutions qui fonctionnent vraiment. Alors, est-ce qu'on peut parvenir à zéro SDF ? Sans doute pas, il y a des raisons très différentes pour lesquelles des personnes se retrouvent à la rue. Mais on peut agir sur beaucoup d'entre elles. La bonne nouvelle, c'est qu'on a de plus en plus de données sur les programmes qui fonctionnent. Maintenant, il faut les faire connaître et les élargir à un plus grand nombre de personnes concernées. L'obstacle principal qui reste, ce sont les préjugés des responsables politiques. Il faut leur faire dépenser de l'argent public pour une population qui ne vote pas, et ce sont des efforts qui rapporteront, mais des années plus tard seulement. On arrivera peut-être à loger un maximum de SDF le jour où on aura vaincu les résistances des politiques. Splash est une émission écrite et présentée par moi, Emmanuel Martin, produite et montée par Marine Rowe, enregistrée et mixée à l'arrière-boutique studio, coordonnée par Mathilde Genin. Splash est une production Nouvelles Écoutes. Pour vous pencher sur les études, les chiffres et les références entendues dans l'épisode, ils sont à retrouver dans la description de l'émission. Envoyez-nous vos idées et vos questions sur nos réseaux sociaux, on est preneurs. À la semaine prochaine !